amateur.
Il n'y a pas d'arme. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant.
Construction.
Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à tous et toutes et bienvenue au Théâtre de la Gamelle, votre émission hebdomadaire tous les vendredis de 13h à 14h sur Radio Canu. Aujourd'hui, nous sommes quatre dans le studio et nous allons vous lire le dernier épisode de la saga écrite par Eva Natalia Grenier qui s'intitule « Elles y croient qu'elles peuvent voler ». Et donc, à la lecture, nous aurons donc Eva.
Salut.
Jean Lacroix.
Bonjour.
Et moi-même, Charlotte Allard. Et à la régie, nous avons Charlotte Touilleux qui nous a rejoint.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà. Et l'épisode que nous allons lire aujourd'hui, c'est le dernier, je rappelle, de cette saga, donc le 7e épisode. Et il s'appelle « Vous pouvez rallumer vos appareils électroniques ». Et je laisse Eva nous résumer quelque peu la saga pour nous faire rentrer en matière correctement.
Alors, c'est une saga où dans chaque épisode, je mets en perspective un peu nos maux sociétaux dans une prise en charge intergénérationnelle. Donc c'est toujours un témoignage en temps direct qui met en lien l'actualité de cette dernière année et demie avec mon histoire personnelle. Donc j'ai utilisé des anecdotes qui me sont propres, de mes parents, de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, de mes cousins, et je les ai mis en relief dans cette saga. Chaque épisode traitait d'un sujet en particulier et à chaque fois, il y avait la confrontation de deux générations à travers la problématique choisie. Donc, dans ce 7e épisode, qui est le dernier épisode, on va parler de l'imaginaire. Et pour ça, donc, j'ai créé toute une dramaturgie que je vais vous résumer pour qu'on sache où on en est. Donc, Elisa et Megan sont deux cousines trentenaires qui se retrouvent car Megan a un secret à avouer. Le fils qu'elle a abandonné en cachette il y a 16 ans est venu la trouver. Il s'appelle Jean et est en recherche d'identité. Megan ne va pas prendre en charge ce fils, c'est Elisa qui va l'aider. En l'accompagnant, elle se confronte à son passé à elle. Le géniteur de Jean est Karim, l'amour d'adolescence de Megan. Il est parti vivre en Alaska il y a des années. Pour le retrouver, Elisa a dû se remettre en contact avec son amour d'adolescence à elle, Samy, le cousin de Karim. Ils remettent le couvert, mais Samy prend peur et ne voudra pas d'une nouvelle relation amoureuse avec Elisa. C'est sans compter sur un petit être qui est en train de se créer dans le ventre d'Elisa. Elle est enceinte. Lorsque Samy l'apprend, il ne veut pas de cet enfant. En parallèle, Jean rencontre enfin son père Karim en Alaska. Et ça, ce sont les dernières informations qui ont été délivrées lors de l'épisode 6. On commence l'épisode 7 avec Samy qui raccompagne Elisa après l'accouchement. Et on va vite découvrir ce qui s'est passé entre-temps. Donc on va commencer cet épisode 7. Vous pouvez rallumer vos appareils électroniques. Samy ne trouvait pas ses clés. L'ascenseur était petit. Il avait laissé Elisa le prendre avec le couffin. Il avait monté les marches en courant jusqu'au 3e étage. Il respirait fort et avait quelques gouttes de sueur sur le front. Le sac de maternité était sur son épaule et il avait déjà déposé son sac à dos avec son ordinateur sur le sol. Il voulait arriver avant elle pour ouvrir la serrure. Pour qu'Elisa n'ait juste qu'à passer le pas de la porte et se poser directement sur le canapé. Il avait cela en tête. Il voulait qu'elle n'ait aucun effort à faire. Il avait déposé un bouquet de pivoines sur la table basse et avait disposé des cookies au gingembre sur une assiette. Il se voyait courir vers la bouilloire qu'il avait remplie avant de partir à l'hôpital pour qu'elle entre sur le son du bouillonnement rassurant de l'eau frémissante. Il fouillait dans toutes ses poches, tapotait frénétiquement. Il était à genoux pour ouvrir la poche de devant de son sac à dos lorsque l'ascenseur arriva. Elisa en sortit. Elle devina de suite ce qu'il cherchait et sortit ses clés à elle de son sac à main. Elle lui tendit. Il attrapa le trousseau en frôlant le cou fin silencieux et de sa main tremblante. Il dut s'y prendre à trois fois pour réussir à insérer l'objet métallique dans la serrure. Il fonça de suite vers la bouilloire. Il n'avait que ça en tête. Il voulait que l'eau frémisse, qu'Elisa boive un Earl Grey. Elle ne lui avait rien demandé. Le voyant courir, elle avait cru qu'il fonçait aux toilettes. C'est la seule explication qui rendait cette course incongrue plausible. Elle avait rentré le cou fin et les deux sacs au salon quand il revint pour l'aider. Il soufflait fort et sa côte droite s'était cognée contre le meuble de la cuisine. Il boitait un peu. Elisa se tenait les hanches, elles étaient encore un peu endolories. L'air semblait entrer en douceur dans son nez et ressortir tout chaud et tendrement de sa bouche. Elle regardait autour d'elle et on aurait pu croire que son cou bougeait non pas dans de l'air, mais dans une grosse boule de coton moite, tellement ses gestes étaient lents. Ses yeux ne s'attardaient sur rien. Elle semblait bloquée. Elle restait debout, ses lèvres entrouvertes et le regard dans le vague.
Va t'asseoir. Tu dois être assise. Ne porte pas tout ça, c'est lourd. Sers-toi, c'est tes cookies préférés. Je fais bouillir de l'eau pour le thé, c'est bientôt prêt. Tu n'as que quelques pas à faire. Le canapé est juste là. Je peux mettre ma main sur ton dos? Je peux t'aider? Tu as fait tout ce chemin jusqu'ici, tu es presque le canapé, et ensuite tu es tranquille. Ton pied droit devant ton pied gauche. Faut avancer, c'est fou quand je te regarde. C'est comme s'il n'y avait plus d'apesanteur autour de toi. J'ai l'impression que tu flottes. Mais on est sur Terre. Je suis sûr que tu te passeras d'un exposé de ma part sur le sujet. On y est. À cet endroit où tout se crée, disparaît, se transforme. Je sais que ça semble irréel, que tout est allé trop vite. L'eau a fini de bouillir. Je vais te faire une grande tasse. J'arrive.
Elisa se retrouvait assise sur le canapé. Ses yeux fixaient le bouquet sur la table basse. Sa bouche esquissa un sourire. Samy lui avait offert le même bouquet quelques mois plus tôt. Il était venu sonner à sa porte à elle. Elle avait ouvert en pyjama de grossesse. Son arrêt maternité avait commencé plus tôt que prévu. Elle devait rester allongée le plus possible. Ses jambes faisaient de la rétention d'eau et elle ne pouvait plus se déplacer. Il ne pouvait donc pas la louper. Il savait où aller s'il voulait la voir. C'est Jean qui lui avait dit. Il s'était vu à son retour d'Alaska, seul, tous les deux. Et Jean ne lui laissa pas le choix. Il avait dû attendre 16 ans pour retrouver son géniteur. Il ne voulait pas que son petit cousin ou sa petite cousine vive la même chose. Samy avait revu Elisa à cause de lui. Sans lui, ils n'auraient jamais remis leur idylle à jour et cet enfant n'aurait jamais été conçu. Jean venait de passer 15 jours avec son géniteur. Et toutes les douleurs qui étaient devenues des habitudes avaient disparu. Le puzzle était complet. Et Jean pouvait avancer, il savait d'où il venait. Il savait comment il avait été conçu, quelle était sa place dans l'univers. Et il s'était mis en tête que sa place, notamment, avait été de rapprocher de nouveau Samy et Elisa. Il en était persuadé. Et là, il devait les forcer à se voir, les aider à ne pas avoir peur, à aller au-delà de leurs a priori, d'aller avec leur histoire à eux. L'enfant n'avait pas été prévu. Mais rien n'était prévu dans la vie. Ça, il le savait. On vogue de surprise en surprise et le malheur vient toujours des idées préconçues. De quand on ne suit pas son mouvement, de quand on appréhende. Si on accepte les choses sans aller à contresens, on a beaucoup plus de chances de sentir le mot bonheur se former dans les pores de nos peaux. Jean l'avait convaincu et n'avait pas eu besoin de lui rappeler que les fleurs préférées d'Elisa étaient les pivoines. Samy n'avait pas trouvé d'excuses valables pour justifier son silence auprès d'Elisa. Il avait été sur lui-même en monologue, comme certains savent si bien faire pour se mentir à eux-mêmes, pour prouver ce qu'on leur a jamais demandé de justifier. Il trouvait cela injuste de mettre au monde un enfant dans un monde qui était déjà surpeuplé, avec des injustices plus grosses que la bêtise de la nature humaine. Il n'en démordait pas et pensait que parce que pour lui tout ceci était raisonné, les autres allaient le comprendre, sans apercevoir que quand le concret prend le dessus sur les idées, on ne peut pas se voiler la face avec des théories. On doit agir pour les biens des êtres de chair et de sang qui se trouvent autour de nous. Ils avaient créé un être humain avec la femme qui était face à lui. Celle qu'il ne pensait pas pouvoir rencontrer à ce moment-là. Celle qui, pour qui il n'était pas encore disponible. Pour lui, il y avait encore trop de paramètres négatifs pour que leur union puisse devenir une belle aventure. Il avait choisi tout seul, en oubliant que ces choses se vivent, ne se décident pas. En oubliant qu'un bout de lui-même s'était détaché, avait créé la vie dans le ventre d'un autre être humain, qu'elle n'avait pas choisi, elle, qu'elle ne l'avait pas fait exprès, qu'elle devait faire avec, aussi, que ce n'était pas sa faute à elle, que quand elle ouvrit la porte, les cheveux en bataille, le haut de son pyjama descendant sur son épaule et une tache de chocolat sur le bout de son ventre rebondi, les neurones de Samy ne purent prendre les devants et ses transmetteurs lui firent à nouveau comprendre qu'il n'avait pas le choix, qu'il devait faire avec, et pas contre. Sans lâcher le bouquet, il l'avait pris dans ses bras et il l'a serré jusqu'à ce que le voisin de palier ne le ramenât à la réalité en lui bousculant les mollets dans le couloir avec son caddie à course. Le voisin s'excusa auprès de Samy. Samy s'excusa auprès d'Elisa. Elle le fit entrer. Elle déposa les fleurs dans un vase et ils décidèrent d'essayer. En regardant les pivoines fraîches, Elisa se rendait compte que quelques mois venaient de s'écouler et qu'elle ne venait pas de vivre tout cela seule. Qu'il fallait qu'elle prenne en compte Samy dans cette histoire qu'il avait acceptée d'essayer. Elle était bercée par l'odeur de la bergamote infusant et touchée par le geste vif de Samy pour enlever le sachet, la tasse à peine déposée. Il savait qu'elle aimait son thé léger. La sensation chaude des cuisses qui viennent de se poser sur le canapé à côté d'elle, le craquement du biscuit au gingembre dans la bouche de son partenaire la firent se recroqueviller contre lui. Fort. Ils étaient là. Ils vivaient tout ça à deux. Pendant des mois, elle avait imaginé le faire seule, et les quelques miettes qui se trouvaient sur le torse de son compagnon devenaient aussi précieuses qu'une poudre de diamant sur l'établi d'un tailleur de pierre. Samy s'était transformé avec l'arrivée imminente de sa paternité. Quand il rentrait chez lui, qui était vite devenu chez eux, il ne s'asseyait pas automatiquement devant son bureau, devant la fenêtre. Il cherchait Elisa et se réjouissait du miracle scientifique que son ventre était en train de produire. Il ne cherchait plus la vie ailleurs, il la vivait de dedans. Cela faisait plus de 72 heures qu'il n'avait pas réussi à dormir. Leurs yeux réussirent à se fermer et leurs esprits réussirent à s'échapper quelques minutes sur leur canapé vert pomme. D'un sommeil profond, Elisa se réveilla en un souffle.
Ma grand-mère était assise dans leur canapé blanc en cuir. Elle lisait un L et moi, j'étais assise sur un de leurs fauteuils en cuir orange. Je lisais aussi un Ken Follett. C'était l'histoire d'un anarchiste russe qui était arrivé jusqu'en Angleterre pour faire un attentat. Il doit se rendre dans une maison et il se rend compte que son ancien grand amour vivait désormais dans cette maison. Elle est mariée et est maman d'une jeune fille. Et comme par hasard, la fille, elle, est un peu rebelle. Et cette fille, bah, en fait, on devine que c'est celle de l'anarchiste. Et ensuite, bon, je vais pas te dire la fin parce que il est bien ce livre. Il est chez mes grands-parents, ils te le prêteront quand on ira. Bref, dans mon rêve, je lisais ce livre. Ma grand-mère lisait son magazine, mon grand-père était dans le jardin. On entendait le bruit de son brûleur de mauvaises herbes. Les volets étaient fermés pour ne pas faire entrer la chaleur. On était bien. C'était tout ce que j'avais souhaité depuis toute petite, quand le canapé blanc était déjà là, mais pas les fauteuils orange. Je m'imaginais déjà être assise dans ce salon, à me détendre en famille avec des bruits de partout, en sachant qu'un amoureux et un enfant à moi étaient quelque part dans la maison ou le jardin. C'est tout ce que je voulais quand j'étais petite. Quand je mettais du sable dans ma petite cuisinière en plastique, que je faisais infuser avec des herbes pour faire un faux café. Quand je jouais avec les anciens pots de crème Chanel de ma grand-mère dans la cave, fascinée par leurs gros bouchons et la douceur de leurs contours. Je m'imaginais toujours qu'un jour, je ferais ça pour de vrai, avec mes pots de crème à moi et du vrai café, que je transmettrais tout ça, ce bonheur-là. J'ai jamais voulu plus dans la vie, en vrai. J'ai eu plus. J'ai fait beaucoup, sans savoir que c'était courageux. en pensant que c'était dans le but d'arriver jusque-là. Juste là. Heureusement. C'est ce qu'on nous propose, de ne pas vouloir plus que ça. Ce que notre société a construit. C'est notre drame. Pas plus que ça. Pour qu'on se noie dedans. Mais ça reste, c'est inscrit et je l'ai toujours pas. Dans mon rêve, on était tous tranquilles. Puis, il y a eu des pleurs. Tu faisais la sieste avec notre fille, donc je ne m'inquiétais pas. Je tournais même la page du livre pour continuer le chapitre. Mais les pleurs ne s'arrêtaient pas. Ça continuait. Alors, je me suis dit que tu devais être en plein sommeil profond et que même les cris de ton enfant ne te réveillaient pas. Parce que tu pouvais enfin te reposer, parce que cette maison était apaisante, parce que cette maison était là pour ça. Pour que tu te reposes après toutes tes nuits d'insomnie à la recherche des étoiles. Que ces pierres, que mes ancêtres, ils ont mis en place de génération en génération, elles avaient cette générosité-là, qu'elles l'avaient toujours eue, qu'on avait de la chance et qu'on le savait. Alors, on la partageait. Toujours. J'ai mis le marque-page, je me suis levée et j'ai monté les escaliers jusqu'à notre chambre. Je m'attendais à voir la petite bouger dans tous les sens, tout contre toi. Parce que c'est comme ça que je vous imaginais dormir. L'un contre l'autre, dans le même lit. Et que toi, tu aurais les paupières lourdes et closes. Ces petits doigts potelés tenteraient de rejoindre le bout de ton nez pour te réveiller. Mais non, vous étiez réveillés tous les deux. Et toi, tu avais ces petits pieds dans les mains. Tu les tournais dans tous les sens en grattant leurs extrémités. Quand je suis rentrée, tu ne t'es même pas arrêtée. Mais tu voulais que je te rejoigne et tu me montrais. Tu me disais, tu vois, c'est ce que je te disais. Elle a les pieds palmés, je te l'avais dit, c'est fascinant, elle le sent. Elle fait partie de la première mutation. Et tu expliquais une théorie comme quoi la fonte des glaces actuelles obligerait l'homme à s'habituer à vivre dans des zones aquatiques et que nos corps se mutaient pour préparer cela, pour bouger rapidement dans l'eau. Des excroissances de peau allaient pousser entre les phalanges des prochains êtres humains. Tu disais aussi qu'elle garderait sa couche de graisse de nourrisson pour se protéger contre l'eau froide, comme les phoques. Tu étais surexcité. Je te disais qu'elle garderait le gras autour de ses membres parce que c'est ma fille et que c'est génétique. Elle ne pleurait plus, mais riait. Et on s'est disputé quand une énorme vague éclata les fenêtres de la chambre et que l'eau envahit la maison et nous emporta tous les trois à travers les murs jusqu'à la fenêtre de l'autre chambre. Mon grand-père nous y attendait avec ma grand-mère dans un bateau de bois. Le même bateau Playmobil. Le même bateau Playmobil qui était dans la cave, mais à taille humaine. Ma grand-mère tenait les voiles et mon grand-père la barre, tandis que mon frère sortait de la cale du bateau avec des gilets de sauvetage et nous attachait à une sorte de corde qui traversait tout le bateau afin de ne pas tomber. Mes parents gonflaient des petits ballons qui se transformaient en bateaux flotteurs qu'ils jetaient dans l'eau à l'intention des autres villageois. Mes oncles apparaissaient un par un et ils semblaient stabiliser les flotteurs à distance avec une sorte de porte-clés. L'eau entraînait tout sur son passage. Ma mère me montrait une version immense de ma fausse cafetière en plastique des années 90 et me disait d'y filtrer l'eau pour qu'elle devienne notre carburant. Meghan n'était pas sur le bateau. Elle n'était pas de ce côté-là de la famille. Je l'appelais de suite. Elle était à Bron avec Jean et Karim. Ils étaient dans l'appartement de mon autre grand-mère au moment de la vague. Et ils volaient. Jean avait déployé les ailes. Déployé des ailes énormes et cachées qu'il avait dans le dos. Et il avait pris ses deux géniteurs sous les bras. Il était au-dessus du parc. Les branches des arbres brisés servaient de canaux de sauvetage aux gens. Elle disait croire entendre la voix tressautante de mamie. Chantonner, ses lèvres claquant dans l'air à plusieurs reprises, comme lorsqu'elle nous embrassait. Elle sentait un souffle chaud comme ses bras lorsqu'il nous entourait en plein après-midi. Et tout autour d'eux, des adolescents volaient en portant leur famille. Je regardais autour de moi et je commençais à distinguer des espèces d'aigles immenses et informes à plusieurs têtes au-dessus de nous. Mais je ne pouvais pas garder les yeux ouverts, le soleil était trop brillant. J'avais l'impression d'entendre dans le vent les voix de mes arrière-grand-mères. Elles chantaient une chanson de marin pour nous encourager en riant. Tu étais avec notre fille, près d'une table, avec une carte des étoiles et des tas de calculs et de dessins d'ingénierie. Tu étais calme, elle aussi. Ses petits pieds palmés bougeaient comme s'ils dansaient dans l'air. Vous m'avez apaisée. On n'était plus dans la maison. On était en pleine tempête. Mais j'avais tout ce dont j'avais toujours rêvé. Je me disais qu'on allait s'en sortir. Il y avait des cris tout autour, mais il y avait de l'espoir. Et ce qui me réveilla, c'est le silence. Le silence ici, dans notre salon à nous, où on vient de faire rentrer notre tempête à nous. Notre fonte des glaces et le mal que je ressens là, il est tellement pire que la peur que j'ai eue dans ce rêve, il n'est même pas quantifiable. Dans notre salon, où l'espoir est plus là, où il n'y a aucune magie de la génétique, où mon thé est tiède et tes fossettes tremblantes. T'as réussi à dormir ? Tes yeux sont groggy, mais tu as encore des cernes, violettes et pleines. Elles avaient disparu. T'as rêvé un peu, toi ?
Pas au début, pas tout de suite, mais quelques secondes après toi. Une fois que j'ai senti ton corps se relâcher, le mien a sombré. J'y suis arrivé, je sais pas comment, j'y suis arrivé. C'est la première fois qu'on se touchait à nouveau depuis. La première fois que j'ai senti ta peau chaude, tes muscles doux, ton odeur. C'est chez moi. J'ai sombré, j'ai rêvé qu'on l'avait cryogénisé, que tu avais accepté. Je me voyais sur le bureau avec des fiches de partout, je calculais, je dessinais, et toi t'étais sur ce canapé, tu écrivais des histoires et tu t'inquiétais pas. Parfois tu venais vers moi, et tu mettais tes mains sur mes épaules et tu m'écoutais te raconter mes découvertes. Il y avait des grands éclats de joie, des lumières blanches et éclatantes dans mes neurones et tout autour de nous. J'ai senti le temps passer, c'était long, mais d'un coup on s'est retrouvés avec des scaphandres et des rides en plus. On avait la capsule de la petite. J'avais réussi à faire les bons calculs pour la faire revenir, mais il fallait aller sur une exoplanète. Une qui ne représente pas la vie avec des codes de l'ADN et du carbone. On voyait son petit visage dans les vitres de la capsule, paisible, ses petites boucles blondes étaient un peu bleutées, et elle souriait. J'avais installé une sorte de tente transparente sur le sol de la planète. Nous avons enlevé nos scaphandres qui laissèrent flotter nos cheveux blancs dans la brise du cocon. Et après que tu aies embrassé la capsule, je l'ai ouverte sous la tente. J'ai sorti le corps congelé du bébé, j'avais des gants. J'aurais voulu pouvoir la toucher à main nue, mais c'était trop dangereux. Et chaque bout de sa peau qui touchait l'air redevint chaud d'un coup. D'un coup d'un seul, j'avais un bébé chaud, potelé et rosé dans les bras. Jean était en face de nous, il devait avoir la quarantaine, plus vieux, il ressemblait un peu plus à Meghan qu'à Karim. Il était en face de moi, il était docteur. C'est comme si on avait répété ça des centaines de fois. Tout était méticuleusement effectué avec une précision et une concentration tendue. Il mit de suite des fils un peu de partout sur le corps, elle commençait à ouvrir les yeux, et quand elle les eut ouverts complètement, ils étaient argentés et lumineux, comme un faisceau de lumière. Tu me tendis une sorte de mousse qu'on avait prélevée sur le sol et tu la frottas avec. Elle souriait et la mousse l'englobait. Plus la mousse entourait son petit corps, plus les cellules du bébé semblaient grandir. Elles se transformaient et grandissaient. On l'a vu passer de ses premières heures à la trentaine en quelques minutes. Un des fils la reliait à un ordinateur qui l'encodait. Elle lui inscrivait tous les souvenirs que nous avions créés en commun. Les histoires que tu avais inventées ces 30 dernières années sur notre canapé. Tu lui avais écrit un journal, comme si elle avait été avec nous. Nos mains étaient sur elle pour qu'elle nous sente, qu'elle sente que c'est nous qui lui transmettions tout cela. Tu lui avais déposé une immense couverture et elle rattrapa le temps. Ses premiers frissottis dans ses cheveux que je coiffais dans tes histoires, après le bain qui devenait lisse et qui se collait sur son petit crâne, après chaque léger coup de brosse. Son teint était mat comme le mien et ses yeux s'éclaircissaient de plus en plus. Il prenait la couleur des tiens. Et on voyait qu'elle commençait à nous reconnaître. On voyait sa conscience s'illuminer. Mais elle n'était pas consciente, pas encore en vrai. Aucun son sortait de sa bouche. Et elle tendait ses mains vers nous, comme pour nous montrer des choses. Tout se passait en avance rapide. Et nous, on pleurait comme des madeleines. Des madeleines de Proust que t'avais créées et qu'elle était en train de vivre, que nous, nous connaissions par cœur. Je l'ai vue autour de ses 4 ans faire des petits mouvements de pied dans le vide, la voyais dans l'herbe verte avec ses baskets roses faire des passages en. Tu avais écrit ça. Dans mon rêve, ça correspondait à un moment où on avait organisé un pique-nique au bord du lac chez Megan. Que Karim était venu en France quelques mois sans ses enfants, sa femme l'avait envoyé en centre de désintox. En tant que Français, il était mieux remboursé ici. Il avait le droit à des sorties et il était assis sur une grande pierre en taillant une petite branche d'arbre. Nous étions en cercle et c'était comme si nous n'avions pas quitté le quartier. Nous avions 16 ans à nouveau. On rigolait sur la gominade Karim qui le faisait ressembler à Acosta, à Darth Laker à vif. Dans la vraie vie, Jean était sur son téléphone à faire des vidéos. Mais dans ton carnet de notes, notre fille jouait au ballon avec son cousin. Ils hurlaient de rire. Le temps que ses pieds se battent dans le vide et que mon esprit s'évapore et hop, elle avait déjà 15 ans. Elle avait le corps d'une jeune fille, d'une jeune femme et nos mains touchaient ses bras. Tu lui avais enroulé la couverture comme une robe, elle fronçait les sourcils. C'est le jour où tu avais écrit qu'elle était sortie avec sa meilleure amie et qu'elle avait loupé le dernier bus pour rentrer. Elle nous avait alors réveillés, parce que je dormais la nuit dans mon rêve, et j'avais dû me rhabiller et aller les chercher en voiture. Et j'étais fâché, c'était épuisant. J'ai refermé les yeux un instant et quand je les ai réouverts, une magnifique femme blonde aux yeux bleus et au teint mat apparut devant nous. Elle m'a regardé et elle m'a appelé papa. Elle t'a regardé, elle t'a appelé maman. Elle engueula Jean, lui dit « Mais allez, aide-moi à fermer cette couverture, c'était sa cousine qu'il fallait qu'elle fasse un nœud, comme quand elle était petite, et qu'ils jouaient ensemble à se déguiser. » Elle nous regardait, et elle comprenait pas nos têtes incrédules. Nous l'enlacions, elle était en vie, elle était consciente de son histoire, on était ensemble, on était bien, on était complet, on avait gardé le cap, ensemble. Tu t'es mise à bouger sur le canapé, et là j'ai rouvert les yeux. Je t'ai serré, et j'ai remarqué que ton thé avait refroidi. Bon, je vais le réchauffer. Prends un biscuit, d'accord ? Ils sont bons. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair. But her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go. But her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools and say, take a look at the law, man, beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is there life on Mars? Tortured brow that Mickey Mouse has grown up a cow. Now the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds to my mother, my dog and clown. But the film is a sad thing for, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to vote for some sailors fighting in the dead.
Elisa n'avait pas envie de bouger du canapé. Elle n'avait pas soif, pas faim. Elle avait envie de rester dans les bras de Samy, à son contact et au creux de leurs imaginations. Elle aimait ses rêves, et il parlait d'une autre vie. Rien n'était cohérent ni réel, mais c'était d'autres options, des possibilités. Leurs inconscients avaient travaillé pour eux et au creux de leurs envies et de leurs propres peurs. Le corps de Samy était chaud et réconfortant. Elle se serrait contre lui fort. Il aimait ça, la sentir. Cette odeur-là, il savait que quoi qu'il se passe ou qu'il soit, s'il sentait ses notes sucrées et moelleuses à ses côtés, il serait là où il devait être. Il ne se posait plus toutes ces questions. Et il avait compris qu'il ne fallait pas trop réfléchir. Qu'il aurait toujours des choses à régler. Qu'il ne serait jamais vraiment prêt à quoi que ce soit. Mais qu'avec elle, il se sentirait en sécurité. Elle aussi, il le savait. Il le sentait à travers les pulsations de son cœur qui rebondissaient contre le sien. Ils essayaient de ne pas penser au silence autour d'eux, de la petite respiration en plus qui aurait dû les accompagner. Ils n'avaient pas regardé le couffin depuis leur arrivée. Ils n'y arrivaient pas. Depuis la sortie de la maternité, porter ce lourd morceau de plastique ergonomique jusqu'à leur salon n'avait pas été le moment de joie prévu. Mais Elisa ne voulait pas le laisser dans la voiture. Il s'était garé et elle avait voulu le sortir. Elle voulait entrer chez eux en le portant. Même si leur enfant n'y levait pas ses petites fesses roses. Samy y posa les yeux pour la première fois. Il vit les petits coussins molletonnés violets, le plastique immaculé posé sur le sol. Vide. Sans son, sans odeur, sans rien. Il fixait le petit globe terrestre en mousse qu'il y avait accroché une semaine avant flotter dans le vide autour de sa ficelle. Elisa, elle, regardait les yeux marrons et intenses de son compagnon se plisser. Avec le dos de la phalange de son index droit, elle lui caressa le dessus de l'arête du nez, entre ses deux yeux. C'est le geste que sa mère lui avait appris. Elle lui avait dit que ça calmait les bébés, que ça les endormait.
C'est fou, parce que on l'a créé cet enfant, il a grandi en moi, je l'ai senti. On y est arrivé jusqu'au terme, on lui a parlé, on lui a créé le début de sa vie dans nos têtes, dans notre maison, dans nos cœurs. Les gens l'aimaient déjà. C'était plein de projections tout ça. Même quand quelque chose est concret, quand ça pousse en toi, quand on te dit que tout va bien, que tout ira bien... Tout peut s'arrêter, sans raison. Il n'y a pas eu de raison, hein ? Il n'y a pas d'explication logique, rien. Au final, il y a certainement une leçon à tirer de tout ça, tu vois, mais... Ma tête, elle n'arrive pas à me dire de me calmer. Je sens plus rien, je suis anesthésiée. J'espère que je vais pleurer, je veux crier, je veux avoir des larmes, je veux réagir. Mais... J'arrive pas à me dire que tout ça s'est arrivé, sans raison. J'arrive pas à me dire que ça, ça veut rien dire. J'arrive pas à savoir ce que ça veut dire. Pourquoi on doit vivre ça? Pourquoi c'est la faute de personne? Pourquoi cette vie, elle est pas avec nous, qu'on doit vivre avec une mort? Avec le reste d'une projection? Des espoirs qu'on ne peut pas mettre en pratique, qui restent des idées et le souvenir et le deuil de quelqu'un, de quelque chose qui va faire partie de nous pour toujours, sans avoir pu grandir. Et faut pas culpabiliser. Tout le monde me dit ça, que je dois pas culpabiliser, que c'est pas ma faute si cet être, il a arrêté de vivre en moi juste au moment où il devait sortir. J'essaie de me dire que c'est pas mon intérieur à moi qui est pourri, que je suis pas pourri. J'essaie de me dire ça, mais qui, hein ? Qui a fait ça ? Qui décide de ça ? Quelle histoire on va pouvoir se raconter pour survivre ? Quelle partie de notre cerveau il va falloir développer pour tenir ? Sur les 90% qu'on n'utilise pas, est-ce qu'il y a une partie qui un jour comprendra ? Est-ce qu'il y a une partie qui pourra le sentir autrement ? Autre chose que de le toucher, que son odeur, que le voir, que son goût, que sa respiration, sa petite peau qui n'a pas été chaude longtemps et son odeur douce et apaisée, la sensation sur mes lèvres après l'avoir embrassée et avoir cherché à entendre la respiration qu'il n'aura jamais pris. Cet être humain qu'on a presque créé. Peut-être qu'il a laissé des particules sur l'artère, une dimension de lui qu'on ne peut pas encore deviner, autre chose que la trace qu'il va laisser en nous. Le souvenir, c'est certain, mais on est trop bête aujourd'hui pour avoir accès à autre chose. Et peut-être qu'on n'aura jamais la chance de faire vivre la planète assez longtemps pour qu'on mute, pour que notre cerveau développe quelques pourcentages d'utilisation en plus pour voir cette profondeur. Les arcs-en-ciel qu'on devine grâce au prisme de lumière. Il y en aura peut-être plus. J'ai toujours pas de larmes. Il y a quelque chose qui va pas en moi. Je suis peut-être sèche à l'intérieur. C'est le genre de question qu'il faut pas que je me pose, hein ? C'est ce qu'on me dit, qu'ils font tout pour qu'on arrête de se poser des questions, de partout, dans tous les sens. On va faire descendre le pourcentage, c'est certain. Tout ce qu'on a créé, ça fait brûler nos neurones. Le pouvoir, les écrans, la vitesse, ce sont des drôles d'histoires. Il y a peut-être un point de non-retour. C'était une petite fille et ses cheveux avaient déjà des petites boucles. Ce petit être humain, elle porte ton nom. Et on a un livret de famille. J'aime bien les rêves qu'on a eus. C'est ce qu'on a pour nous. On peut toujours se raconter ces choses-là. Hein ? Et dans notre monde à nous, elles sont réelles. Hein ?
C'est le propre de notre espèce. C'est ça qui a fait de nous l'espèce la plus développée de la planète. L'Homo sapiens, il a pris autant de place sur la Terre grâce à sa capacité à se créer des histoires, en nommant les choses et en créant des mythes pour motiver le plus de gens possible d'un coup. La politique, les religions, la loi, les entreprises, tout ça, ça existe parce qu'on se raconte des fables et qu'on se met d'accord pour y croire. Ça nous motive, ça nous rassemble. C'est pas purement instinctif. C'est pas une histoire de meute. C'est des histoires d'individus. Celles qu'on se raconte, qui nous ont permis d'évoluer, de devenir l'espèce la plus intelligente, la plus destructrice. Alors, si tu veux que nos rêves deviennent notre monde, on le peut. On n'a qu'à le décider. On nous prendra pour des fous, parce que ça ne sera pas logique, ça ne sera pas prouvé, ça sera de l'imaginaire. Mais qui tu veux croire aujourd'hui ? On nous ment en permanence, on se ment à soi-même, on se raconte. C'est tout ce qu'on fait tous. Quand tu racontes que tu parles à ta grand-mère à travers le grain de beauté de ta main, mais qui peut te contredire ? Tu lui parles vraiment ? Tu lui dis pas qu'elle te répond ? Qui peut savoir si ta mère t'a jamais vraiment fait fumer à l'âge de 8 ans sur les escaliers de votre gîte de vacances ? C'est peut-être en la voyant fumer, se plaindre d'être dépendante à la nicotine que tu t'es imaginé ça. Qui sait si le parc du quartier a vraiment été construit par nos grands-parents qui se sont battus pour nous ? On n'a pas de photo de ta grand-mère sur le périphérique en train de pousser la poussette, n'importe qui peut te contredire et il te croira que s'il a confiance en toi. Et si c'est pas assez plausible avec le reste de ton histoire, de ton parcours, de qui tu es, est-ce que cette anecdote t'a vraiment construite ? Est-ce que ça correspond avec toi ? Aujourd'hui, qui peut savoir si ton arrière-grand-père a vraiment dit à ton arrière-grand-mère qu'ils avaient une bonne situation, une bonne santé, qu'ils se devaient donc de repeupler la France après la guerre ? C'est elle qui le raconte. C'est ce qu'elle avait envie de comprendre. Peut-être qu'il n'avait pas du tout dit ça comme ça. Peut-être, qui sait, si j'existe vraiment dans ta vie, si j'ai cette place-là, peut-être que je suis toujours un homme perdu sur un canapé qui n'arrive toujours pas à oublier son ex, qui ne te voit pas, parce que lui n'est pas prêt, parce qu'il n'a pas branché sa VHS et qu'il se raconte ses propres comptes. On ne sait jamais, on ne sait pas ce qui se passe entre nous. On essaye. On vient de vivre une épreuve qui existe dans nos corps, dans nos sensations, mais tant qu'on n'en parle pas entre nous, c'est pas de l'expérience, c'est pas validé dans le monde extérieur, comment on le vit, comment on se comporte, nous deux, avec la mort de notre bébé. C'est là, c'est maintenant, c'est là, en ce moment, que ça se décide, que ça se compose dans notre passé. Et à chaque seconde qui passe, c'est le fil de notre histoire qui se déroule. Notre notre petite fille, eh ben, elle a eu une vie en toi. Elle n'a pas eu le droit au monde extérieur, elle n'a jamais appris à parler, à communiquer. On n'a toujours que projeté les signes qu'elle envoyait de tes entrailles. Eh ben, aujourd'hui, eh ben, elle sera avec nous, à jamais. Et c'est à nous de décider. C'est à nous de décider ce qu'on en fait. Comment on se le raconte ? Ça nous appartient à nous. On peut mélanger, on peut y croiser des choses qui sont vraies, des choses subjectives, des envies. On fait comme on veut, bordel de merde. Les gens font toujours comme ils veulent et ils y croient. Il faut croire en nous et tout ce que nos ancêtres nous ont transmis. Leur héritage moral et génétique. Leur expérience qui sont devenues les nôtres, qui font de nous ce qu'on est. Aujourd'hui, on sait que ceux qui ne sont pas encore là nous apprendront aussi. Nous changerons comme des êtres en mouvement ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on a de tout ça, nous, aujourd'hui ? On n'est pas obligé de choisir tout de suite. On peut juste peut-être inspirer l'air qui arrive, l'expirer, juste se dire qu'on va tenir le coup. Et ça ne sera pas tous les jours rose, comme le nom qu'on lui a donné, la plus jolie fleur du monde, dans la terre. Peut-être que son petit corps, il va dégager l'énergie dont elle a besoin. Peut-être que c'est vraiment elle, c'est elle qui va nous aider. C'est sa présence dans la terre qui va nous nourrir, et qui va tous nous sauver, qui va aller contre toutes ces putains de conneries de merde qu'on a déjà tous fait, avec sa pureté, avec son innocence, à l'état brut. Tout est possible, en vrai, si on imagine.
Ils étaient tous les deux allongés sur leur canapé. Un souvenir frais et vif comme l'écume et le courant qui forment leurs vagues. La leur. L'air qui pousse le tout et encourage les mouettes à voler. À voler avec leurs idées, leurs envies, qui survolent les corps et donnent l'envie. Leurs enfants, leurs amis, leurs familles. Leur planète. Jean, Megan, Karim. Ils n'allaient pas se rendre, ni se résigner. Ils le savaient. Ils allaient survivre avec leurs imaginations. Ils tentaient de se construire à travers les tremblements de leur histoire, à travers les tremblements de la planète, au creux de plusieurs entités qui bougent pour se toucher entre deux soubresauts. Leur histoire, c'est ce qui leur restait, ce qu'on ne pourrait pas leur enlever. C'était leur manière de se raconter. En vrai, aujourd'hui, tu parles tellement constamment aux autres que tu oublies qui tu es vraiment, le sens de qui tu es toi. On se réveille dans un monde où l'on se rend compte que chaque vie devient une fiction, la nôtre et celle des autres. Chacun vit dans sa réalité et on tient au sein des vertiges, ceux de la fragmentation de nos personnalités. Et tu es scanné par la vie en permanence. Tu choisis ta constance et ta consistance. Face à quoi ? Une échelle qui n'est pas palpable, qui n'existe pas. L'imagination, c'est une hypothèse, une invention, une notion. Une extrapolation, une supposition, un trait de génie, un rêve, un idéal, une improvisation. Elle change au rythme de nos spasmes, ça frémit et ça vacille. Leur vie à eux, c'est pas la mienne. Et pourtant, elle tient à une déviation que mon cerveau il a choisi de transformer à sa guise. Et vous, vous avez la liberté de l'interpréter comme bon vous semble, d'élucider, soupçonner, prédire et entrevoir. C'est ce qui vous appartient à vous. Et quand on lèvera les yeux vers le ciel, on ne verra pas tous le même bleu, ni les mêmes nuages. Mais normalement, on respirera le même air. L'air dans lequel nos illusions frémissent. Celui qui porte nos évidences entre terre et mer, flottant au fil de nos démangeaisons.
Thank you.
Merci beaucoup à tous d'avoir écouté ce dernier épisode de la saga « Elles y croient qu'elles peuvent voler ». Merci encore au Théâtre de la Gamelle et à tous les lecteurs qui ont participé à ces sept épisodes. Voilà, c'était une aventure d'un an et demi qui vient de se finir aujourd'hui. Et voilà, si vous voulez retrouver les précédents épisodes, n'hésitez pas à aller sur le blog du Théâtre de la Gamelle, qui est un des blogs de Radio Canu, où vous pourrez réécouter en podcast ou même télécharger si vous cliquez sur les trois petits points qui sont derrière le lien, qui sont sur la droite du lien. Vous pouvez même les télécharger sur votre ordinateur pour pouvoir tout écouter. Donc en tout, vous aurez quand même 7 heures d'écoute, hein, si vous voulez tout écouter. Mais bon, aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, hein, je veux dire, c'est du binge écouting, on va dire. Je sais pas si c'est... On invente. Et voilà, en tout cas, merci beaucoup à tous encore pour toute cette confiance et ces belles lectures. Voilà, je pense que vous avez un peu compris avec cette fin de l'épisode qu'on essayait de parler un peu de la génération à venir. On ne sait pas trop ce qu'elle va devenir et ce qui va se passer, que ça dépend vraiment que de nous tout ça. Mais bon, on ne va pas vraiment aller vers un peu plus loin, sinon ça va vite devenir un peu moralisateur et ça va perdre un peu toute cette poésie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'agenda culturel que Charlotte va nous présenter. Ensuite, on va vous mettre une petite musique et on a Léa qui va arriver avec son invité pour nous présenter le festival Extrapolis. Mais avant tout ça, Charlotte, quel est ton agenda culturel ?
Alors moi, j'ai très envie de vous parler d'une chose qui se passe. Excusez-moi, je suis encore un peu bouleversée par cette lecture. Au Célestin, au Théâtre Célestin en ce moment, donc aujourd'hui et demain, vous avez le prix Célestin. Donc en fait, il s'agit d'un concours organisé par les Célestins, ouvert aux compagnies de la région. Et donc vous avez une quarantaine de compagnies qui vont présenter des maquettes de leur future création, enfin d'une création en cours. Ils ont un quart d'heure pour présenter chacun leur création. Donc vous avez une compagnie toutes les heures, de midi à 20h, donc aujourd'hui et demain. Et le gagnant en fait de ce concours aura des subventions pour justement cette création-là. Donc vraiment, allez-y, déjà pour découvrir tous ces univers et puis pour soutenir ces jeunes compagnies, on a vraiment besoin de ça. Voilà, pour remettre un peu de neuf dans tout ça. Et puis, il me semble, et le 21 et 22, pour le coup, il y aura les versions, des versions longues. Enfin, c'est pas des versions longues, mais c'est.
C'est une pièce déjà créée, quoi.
Ouais, voilà. Et. Où là, le prix n'est pas le même, c'est-à-dire que. Entre, parce qu'il me semble qu'il y en a deux.
Je crois que celui qui gagne.
Est programmé au Célestin. Donc, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes. Enfin, voilà, c'est pas le même concours, c'est pas le même prix.
Mais c'est toujours le même plaisir de spectateur.
Voilà, et puis surtout. Enfin, du coup, c'est des univers hyper différents, c'est prix libre. C'est entrée libre, il faut réserver parce qu'il y a quand même une jauge limitée. Mais voilà, c'est midi 20h, donc vous pouvez y aller un peu à la carte, je crois.
Et c'est payant pour ceux de la semaine prochaine.
Oui, voilà, 21-22, c'est payant pour le coup. Mais,
Je sais que demain, à 15h, il y a la compagnie Les Désaxés avec l'affaire Audin, qui a l'air d'être un super projet, de Lionel Armand. Je sais qu'il y a la compagnie La Grenade aussi, à 14h.
À 14h, oui.
Voilà, il y a plein de compagnies lyonnaises, donc c'est chouette, quoi.
Oui, c'est le moyen de découvrir plein de choses en même temps, de rencontrer les gens. C'est une belle occasion.
Voilà, c'est tout.
Et ben nous, on va vous laisser avec Léa, qui va du coup vous présenter un peu le festival Extrapolis pendant 10 minutes, un quart d'heure à peu près, en faisant une petite interview. Comme ça, vous allez bien découvrir cet événement qui a l'air vraiment super chouette. Et en attendant, nous, on vous souhaite une bonne semaine et on vous remercie encore pour votre écoute.